Je disais donc, nous reprenons sur le tournant à 180 degrés de l'internationale communiste. Alors, en effet, une fois Hitler installé au pouvoir, la bureaucratie soviétique avait pris conscience que le réarmement de l'Allemagne n'était plus qu'une question de temps. La sphère d'influence traditionnelle de l'impérialisme allemand était en Europe centrale et orientale. Il aurait alors en ligne de mire l'Union soviétique, ce sixième du globe qui échappait aux capitalistes depuis 1917. La bureaucratie stalinienne sentit la menace. Cependant, elle ne comptait pas sur une intervention des masses pour l'aider. Au contraire, elle la redoutait. Pour protéger l'Union soviétique et se protéger elle-même, il ne lui restait donc plus que les moyens d'État, l'armée et la diplomatie. Des discussions s'engagèrent avec la France dès octobre 1933, réactivées en fonction de l'évolution des tensions avec l'Allemagne. Mais comment convaincre la bourgeoisie française de s'allier en cas de guerre avec l'Union soviétique, cet État issu de la Révolution russe qui était l'ennemi à abattre depuis 1917 ? Eh bien, la bureaucratie soviétique pouvait mettre dans la balance le Parti communiste et son influence dans la classe ouvrière. D'autant plus qu'une remontée ouvrière commençait. Le Parti communiste pouvait montrer son utilité à la bourgeoisie française s'il se montrait capable de contenir le mouvement ouvrier et d'être le garant de l'ordre bourgeois. Mais pour cela, le PC devait changer totalement de politique. Il commença par revoir son attitude vis-à-vis de la SFIO. Le 27 juillet 1934, les deux partis conclurent un pacte d'unité d'action en vue d'une campagne de manifestations et de meetings contre le fascisme, les décrets-lois et pour l'organisation de nouvelles élections. L'idée n'était pas de combattre la dégradation des conditions de vie des travailleurs par les grèves ou de construire des milices ouvrières contre les ligues et la police. La perspective était surtout électorale. Pour la direction du Parti communiste, il s'agissait même d'une première étape pour parvenir à une alliance électorale avec le Parti radical, ce parti bourgeois qui avait été de tous les gouvernements de l'entre-deux-guerres. Une fois l'accord avec la SFIO signé, le PC se tourna vers le Parti radical. Le 24 octobre 1934, la veille du congrès du Parti radical, Thorez appela à la création, entre guillemets, d'un large front populaire. Et le 1er novembre, il déclara au comité central du Parti communiste qu'il fallait soutenir le programme des radicaux. Une alliance serait conclue avec les classes moyennes, disait-il, ce qui les dissuaderait de rejoindre les ligues. Ainsi, c'était surtout les ouvriers qui étaient appelés à se ranger derrière le programme des radicaux, un programme qui ne pouvait être que bourgeois et impérialiste. Thorez répondait à l'aspiration des travailleurs à barrer la route aux ligues, mais en les orientant vers le soutien à la perspective d'un gouvernement de gauche dirigé par les radicaux et la SFIO. Finalement, le pacte entre la France et l'Union soviétique, dit pacte Laval-Staline, fut signé en mai 1935. Et Staline ne se contenta pas d'un pacte militaire de circonstance. Il approuva la politique dite de défense nationale de la France, et le PC s'adapta immédiatement à la politique de Staline. Il renia l'antimilitarisme et l'anti-impérialisme qui faisaient jusque-là partie de son ADN. Le militant communiste qui organisait des manifestations de chômeurs dans le restaurant chic se souvient. Donc il disait « C'était fini l'armée française, armée du crime. C'était fini l'armée de la grande bourgeoisie. Maintenant, il fallait dire l'armée française, armée démocratique. » Fin de citation. Le groupe parlementaire PC vota les crédits militaires. Les drapeaux tricolores et la Marseillaise entrèrent dans son attirail pour ne plus jamais en sortir. Vint alors l'été 1935. Le 16 juillet, des décrets-lois du Premier ministre Laval imposèrent une nouvelle baisse des salaires du secteur public et des pensions des anciens combattants. Ces décisions suscitèrent une grande colère parmi les travailleurs, et Laval dut faire face aux premières ripostes ouvrières de masse avec les luttes des travailleurs de Brest, de Toulon et du Havre. À Brest, les 6000 ouvriers de l'arsenal étaient touchés par les baisses de salaire. La grève se déclencha le 5 août, le jour de la paix, débouchant sur une grande manifestation au centre-ville. Au patronat qui avait fait barrer l'accès aux usines par les forces de l'ordre, les travailleurs ripostèrent en dressant des barricades. Un jeune ouvrier fut abattu pendant qu'il remplaçait le drapeau tricolore de la préfecture maritime par un drapeau rouge. À propos d'une autre victime, un témoin raconta. L'ouvrier Barrère fut tué à coups de crosse par les gardes mobiles. J'ai vu son enterrement. 10 000 ouvriers en bleu de travail, pas un mot. On sentait une colère terrible. Fin de la citation. À Toulon, 3 000 travailleurs de l'arsenal firent grève et manifestèrent. Des affrontements éclatèrent avec la police et les ligues. Ni le PC, ni la SFIO ou la CGT ne cherchèrent à étendre ces réactions. Tout en disant que des provocations policières étaient à l'origine des troubles, ils affirmèrent, comme dans l'Humanité du 10 août 1935, que ceux qui s'attaquaient aux gardes mobiles ne pouvaient être que des partisans du 6 février 1934 et que le jeune assassiné en décrochant le drapeau tricolore, c'était sûrement un provocateur. Quant à Blum, le dirigeant du Parti socialiste, il prétendit que les jeunes communistes dont on disait qu'ils avaient affronté les forces de répression à Toulon ne pouvaient être que des membres des ligues. Il fallait se tenir à distance de ces réactions de colère, car leur priorité, c'était de conclure l'accord avec ce parti radical qui avait des ministres dans le gouvernement Laval. Puis, en septembre 1935, la CGT et la CGTU se réunifièrent. Cela répondait certainement à une aspiration des travailleurs à mettre fin à la division syndicale, mais c'était aussi l'occasion pour le réformiste Léon Jouot, chef de la CGT, qui s'était rallié à la Première Guerre mondiale, d'être confirmé comme dirigeant du syndicat réunifié. La CGTU, dirigée par le PC, connue pour être plus radicale, se conformerait désormais à la politique conciliatrice de Jouot. Définitivement rassuré par tous ces gages donnés par la direction du Parti communiste, le Parti radical finit par rejoindre le « Rassemblement populaire », entre guillemets, formé autour de la SFIO et du PC, et signa avec eux un pacte électoral le 27 octobre 1935. On parla désormais de Front populaire pour désigner ce rassemblement des partis de gauche. Comme l'écrivait Trotsky en novembre 1935, et là je le cite, « Le parti radical est lui-même en train de se décomposer. Chaque élection nouvelle montre que les électeurs l'abandonnent à droite et à gauche. La tendance générale des masses travailleuses, y compris des masses petites bourgeoises, est évidente. Elles vont à gauche. L'orientation des chefs des partis ouvriers n'est pas moins évidente. Ils vont à droite. » Tandis que les masses montrent aussi bien par leur vote que par leur lutte qu'elles veulent renverser le parti radical, les chefs du Front unique aspirent au contraire à le sauver. Fin de la citation. Les militants qui, en France, s'étaient tournés vers Trotsky étaient très peu nombreux, coupés de la classe ouvrière par l'hostilité et les calomnies des dirigeants staliniens. Mais face à cette politique d'union électorale entre la SFIO, le PC et les radicaux, Trotsky recommanda à ses militants une autre politique pour les travailleurs désireux d'engager la lutte, former des comités d'action dont ils éliraient les dirigeants. En déterminant collectivement leurs objectifs et leurs modalités d'action, en recherchant comment populariser, comment étendre leur lutte, ils pourraient apprendre à les diriger. Ils cherchaient comment s'appuyer sur la combativité croissante et les initiatives des travailleurs pour leur permettre de prendre confiance dans leurs forces et de commencer à construire une direction pour mener la lutte, alors que le Front populaire les rangeait derrière la bourgeoisie. Au contraire, les partis de ce Front populaire organisaient de grands rassemblements en vue des élections municipales puis législatives, des congrès contre le fascisme, des congrès pour la paix, appelés à manifester contre les ligues. L'énergie, la révolte qui éclatait en explosions isolées comme à Toulon ou à Brest, risquait de s'épuiser et de laisser place au découragement. Les dirigeants du Front populaire, écrivait Trotsky, maintenaient les masses dans l'attente jusqu'à ce que l'on puisse leur faire cadeau d'en haut d'un gouvernement de Front populaire. Face à la menace de guerre, le programme du Front populaire, signé le 10 janvier 1936, mettait en avant le pacifisme, et évidemment pas le renversement du capitalisme par les travailleurs en armes. Face à la crise, la relance économique par des grands travaux, la facilitation du crédit, un impôt sur la fortune. Face aux ligues, la perspective d'une victoire électorale de la gauche et de leur dissolution par décret. L'organisation de milices ouvrières capables de les affronter n'était pas envisagée. La police s'en chargerait. Au-delà des grandes phrases antifascistes et progressistes, ce programme s'en tenait en fait au programme historique du Parti radical. La réduction du temps de travail était évoquée sans être chiffrée. Rien n'était dit sur les salaires, ni sur ce qui allait être présenté comme emblématique du Front populaire, les congés payés, les conventions collectives ou les délégués d'atelier. Ce tournant vers le Front populaire ne fut pas spécifique à la France. Tous les partis de l'Internationale communiste le mirent en œuvre, de l'Espagne aux États-Unis. Loin de vouloir prolonger la riposte ouvrière de 1934, ils cherchaient à l'utiliser. Le tournant vers le Front populaire ne visait pas à renforcer la conscience de classe du prolétariat, mais à garantir à la bourgeoisie que l'Internationale communiste et le Parti communiste mettraient leur influence dans la classe ouvrière à son service pour empêcher que la classe ouvrière ne devienne un danger. C'était aussi un moyen de convaincre la bourgeoisie française qu'elle n'avait plus rien à craindre de l'Union soviétique et que celle-ci pouvait être une alliée contre la menace de l'Allemagne nazie. Peu à peu, une partie des classes moyennes fut néanmoins gagnée par la confiance qui grandissait au sein du monde du travail et par la sensation qu'une force était en train de se lever face à la crise. Au premier tour des élections législatives, le 26 avril 1936, les partis du Front populaire gagnèrent 290 000 voix, avec un déplacement de voix des radicaux à la SFIO et de la SFIO au Parti communiste. Les radicaux reculaient, la SFIO stagnait et le Parti communiste doublait ses voix en obtenant le même nombre que les radicaux. Les désistements permirent toutefois aux radicaux de remporter 100 sièges contre 72 pour le Parti communiste. L'alliance de Front populaire avait sauvé les radicaux de l'effondrement. Avec 147 députés, c'est la SFIO qui allait diriger le nouveau gouvernement. Comme dernière garantie donnée à la bourgeoisie qu'il avait renoncé à toute perspective de prise du pouvoir, le Parti communiste refusa de rentrer au gouvernement, lui promettant néanmoins un soutien sans faille par le vote de ses députés. Les premiers coups de semonce ouvriers eurent lieu dans l'aéronautique, au début du mois de mai, bien avant la mise en place du gouvernement. Le 11, à l'usine Breguet, au Havre, et le 13, à la Técoère, à Toulouse, les ouvriers obligèrent les patrons à réintégrer des travailleurs licenciés pour avoir fait grève le 1er mai, et même à payer les jours de grève. Dans un cas comme dans l'autre, les grévistes avaient pris l'initiative d'occuper leurs usines. Les travailleurs se mettaient en position de force et empêchaient ainsi le patron de mobiliser des briseurs de grève. Le 14 mai, une nouvelle grève avec occupation eut lieu, cette fois aux usines Bloch, les futures Dassault, en banlieue parisienne. La direction promit une convention collective, des congés payés et le paiement des jours de grève. Dans la métallurgie parisienne, d'autres délégations s'adressèrent au patron avec des revendications basées sur celles de Bloch. Le 24 mai, un article de l'Humanité relevait une effervescence dans l'aéronautique et la métallurgie parisienne. Il conclut que les travailleurs sauraient imposer leurs revendications, mais sans appeler les autres travailleurs à entrer en action. L'Humanité se consacrait à célébrer la victoire électorale. se contentant d'inciter Blum à gouverner et à agir au plus vite, notamment en lançant un programme de grands travaux. Ce 24 mai, cela faisait déjà plus de 3 semaines que les élections avaient eu lieu, et le gouvernement n'était toujours pas nommé. C'était aussi la date de la manifestation traditionnelle en mémoire de la Commune de Paris, qui fut révélatrice de l'ambiance qui se développait au sein du monde du travail. 600 000 personnes affluèrent pour célébrer à la fois le combat du premier pouvoir ouvrier, celui de la Commune de Paris de 1871, mais aussi la formation prochaine d'un gouvernement de Front populaire qui se présentait comme l'ami des travailleurs. Parmi cette foule, il y eut sans doute beaucoup d'ouvriers de la métallurgie discutant des mouvements des derniers jours et enthousiasmés par la démonstration de force de la manifestation. Le 26 mai, les ouvriers de Nieuport, une usine d'aéronautique en banlieue parisienne, rentrent en grève et occupent leur usine. Ils exigent un salaire minimum, la semaine de 40 heures, le droit à des délégués élus. D'autres grèves démarrent, parfois vite suspendues après le recul du patron. Le gouvernement intérimaire juge cependant la situation assez inquiétante pour proposer au grand patronat, le 28 mai, de faire évacuer les usines par la force. Mais ce sont les patrons qui refusent. Et pas par crainte des dégâts sur leurs précieuses machines, mais par peur de pousser les ouvriers à bout, avec le risque que l'occupation ne se transforme en prise de contrôle des usines par les ouvriers. Voilà à quoi, dès le 28 mai, réfléchissaient les chefs patronaux. Au moment même où cette discussion au sommet a lieu, les 35 000 ouvriers de Renault-Billancourt cessent le travail. Cette usine, qu'on appelait le Bagne, où il n'y avait plus que 60 syndiqués quelques années auparavant, en entraîne une dizaine d'autres. Alors que les occupations se répandent comme une traînée de poudre dans la métallurgie et que des chantiers de l'exposition universelle sont occupés, le gouvernement propose aux syndicats que le travail reprenne en échange de l'ouverture des négociations dans chaque entreprise. Les syndicats persuadent les grévistes de reprendre le travail. Les dirigeants du Front populaire saluent la victoire supposée obtenue. La grève semble retomber. Les 30 mai et 1er juin, la SFIO tient un dernier congrès avant son arrivée au gouvernement. Les premières occupations d'usines ont déjà eu lieu. Et Blum martèle, et je le cite, que la coalition électorale n'a pas le socialisme comme objectif et ne changera pas le régime social. Il ajoute, c'est ce qu'il faudra que tous ensemble nous fassions comprendre aux masses ouvrières si elles étaient disposées à l'oublier. Fin de la citation. Quant au Parti communiste, il loue l'initiative sensationnelle, entre guillemets, des ouvriers, mais reste en phase avec la CGT qui incite les dernières usines occupées à ouvrir le dialogue avec les patrons pour cesser les occupations. Le Front populaire n'appelle pas à l'entrée en action des travailleurs, il ne la souhaite pas. Pourtant, le 2 juin au matin, la grève devient une lame de fond. Au moment où les travailleurs de Renault et de Citroën reprennent le travail, la deuxième vague de grève déferle sur la région parisienne. Le lendemain, elle gagne le reste du pays et de nouveaux secteurs, comme le textile. Blum dira que la grève était venue frapper son gouvernement au visage. L'Union régionale CGT a beau rappeler qu'elle n'a pas décidé ni même envisagé de grève générale, le syndicat est totalement débordé. À une rencontre entre élus du Front populaire, le 3 juin, le député SFIO Salengro déclare, et je le cite, que ceux qui ont pour mission de guider les organisations ouvrières fassent leur devoir, qu'ils s'empressent de mettre un terme à cette agitation injustifiée. Pour ma part, mon choix est fait. Entre l'ordre et l'anarchie, je maintiendrai l'ordre envers et contre tout. C'est la fin de la citation. Mais voilà la ligne de conduite de l'homme que Blum choisit le lendemain comme ministre de l'Intérieur. Cependant, la vague de grève se transforme en raz-de-marée et Blum n'a toujours pas pris ses fonctions. Poussé par le patronat, le président de la République, Albert Lebrun, parvient néanmoins à le convaincre qu'il y a urgence, car personne ne parvient plus à contenir les travailleurs. Or, Blum peut peut-être parvenir à reprendre la situation en main en s'appuyant sur la confiance que les travailleurs placent en lui. C'est en tant que dernier recours de la bourgeoisie et de l'État face à la grève qui se généralise que Blum et son gouvernement entrent en fonction en catastrophe le 4 juin. Comme le SPD après-guerre en Allemagne, il espère se porter à la tête du mouvement pour mieux le faire rentrer dans le rang. Mais quelque chose est en train de changer dans les consciences. Depuis 1934, une partie de la classe ouvrière a repris confiance. Manifestations et grèves ont retrouvé droit de cité. À présent, les travailleurs font sauter la chape de plomb qui pesait sur eux. Après le sursaut de 1934, c'est toute la classe ouvrière qui se lève. Simone Veil, une intellectuelle ayant travaillé un temps comme ouvrière dans la métallurgie, écrit à propos de ses camarades de travail, je la cite, « On avait tellement subi au cours des dernières années, le chômage, le travail aux pièces, les brimades de la hiérarchie, les baisses de salaire, les licenciements au moindre geste d'insubordination. On n'avait plus la force d'attendre. » Quand Blum entre en fonction, la situation n'a plus rien à voir avec celle de l'élection. Le rapport de force évolue très rapidement dans le sens de la classe ouvrière. Dans un grand discours à la radio, il déclare que son programme correspond aux réclamations du monde ouvrier, alors que personne n'a demandé aux grévistes ce qu'ils veulent. Mais que les travailleurs doivent prendre garde aux ennemis du Front populaire, qui n'attendent qu'une occasion pour le discréditer. Blum ne dénonce pas ouvertement la grève, mais il la présente comme un obstacle pour le gouvernement, quelque chose qui l'affaiblit. Le discours prononcé ensuite par Jouot, le dirigeant de la CGT, va exactement dans le même sens. Deux leviers sont mobilisés pour tenter de mettre un terme au mouvement. Le vote de loi sociale en urgence et les accords Matignon signés le 8 juin. À la demande des chefs des grandes entreprises, deux jours après l'entrée en fonction de Blum, des discussions s'engagent entre le gouvernement, la CGT et le patronat. La nécessité d'augmenter les salaires, avec des hausses de 7 à 15%, et la reconnaissance de l'élection de délégués ouvriers sont acceptées sans discussion. En échange, les patrons exigent la reprise du travail et l'évacuation immédiate des entreprises. Mais les dirigeants de la CGT redoutent la réaction des travailleurs et craignent de se « discréditer » entre guillemets à leurs yeux, comme l'expliqua plus tard Frachon, un représentant de la CGT et un des dirigeants du Parti communiste. Finalement, CGT et patronat convinrent que les travailleurs devaient reprendre le travail dès lors que le patron déclarait accepter les accords Matignon. Dès le lendemain de ces accords, Blum bouscule le calendrier parlementaire. Il dépose des projets de loi sur le salaire des fonctionnaires, sur les 40 heures de travail hebdomadaires, sur les congés payés, sur les conventions collectives, et il presse les députés de se mettre au travail, car, dit-il, chaque heure compte. Et voilà, adoption en commission dans la nuit du 10 au 11, vote les 11 et les 12 à l'Assemblée, puis le 17 et le 18 au Sénat, tout est réglé en 8 jours, c'était du jamais vu. Les accords Matignon et ses lois sociales dépasse de loin le programme qu'avait établi le Front populaire, mais échoue à endiguer la grève, qui continue de s'étendre durant la deuxième semaine de juin. C'est à ce moment-là que les assurances, les grands magasins, l'hôtellerie, les ouvrières, de la mode, les coiffeurs rejoignent la grève. Les militants syndicaux sont submergés de sollicitations. C'est souvent la première grève dans des entreprises où il n'y a parfois qu'un syndiqué quand il y en a un. Par exemple, une très jeune travailleuse d'un grand magasin de Montmartre arrive en trombe à un local CGT. Elle a mis sa boîte en grève, mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Un autre exemple, des délégués de 400 métallurgistes en grève apportent un cahier de revendication au patron. Une demi-heure plus tard, il a tout accepté. C'est louche. Donc les ouvriers qui trouvent ça louche vont demander à la CGT s'il est bien prudent de reprendre le travail tout de suite. Parfois, c'est le patron qui se présente au local CGT. Les ouvriers ont arrêté le travail, mais il n'y a pas de revendication. Lui, il est prêt à dire oui à tout, mais que quelqu'un lui dise quoi signer. Dans la métallurgie parisienne, à chaque recul des patrons, les ouvriers posent de nouvelles exigences. Ils finissent par annoncer qu'ils resteront en grève tant qu'on n'aura pas donné aux techniciens et aux employés la même chose qu'aux ouvriers. Vous voyez, la classe ouvrière à l'offensive, elle a d'autres moyens de gagner à elle, les classes moyennes, que les alliances avec des partis pourris comme le Parti radical. Il faut s'imaginer l'ambiance dans laquelle sont plongés des millions de travailleurs, leurs familles, une grande partie de la société. Les entreprises sont occupées par la quasi-totalité du personnel. Les travailleurs se relaient au piquet de grève pour contrôler les entrées et les sorties. Des commissions sont désignées par le comité de grève de l'usine pour organiser l'entretien des machines, l'entretien des locaux, les repas, pour chercher de l'aide auprès des habitants, des commerçants, des mairies, SFIO ou PC. On était voisins et on se retrouve engagés dans un combat commun. On sent que des milliers d'autres autour de soi font la même expérience, au même moment. On était collègues et on devient camarades. Souvent, la grève précède les revendications, car le sentiment que c'est le moment ou jamais de relever la tête l'emporte. Puis, des délégués syndicaux interviennent pour discuter avec les patrons. Les grévistes qui occupent les locaux refusent parfois les premiers accords et les patrons doivent reculer à nouveau face à la grève. Mais les grévistes n'élisent pas eux-mêmes leurs représentants, même quand les dirigeants syndicaux sont chahutés, comme dans le cas de la métallurgie. Aucune assemblée centrale des grévistes, des délégués des grévistes ne se réunit ou pourrait discuter des objectifs communs pour le mouvement, élu un comité central de grève. Les travailleurs sont en grève générale, déclenchée malgré les chefs des partis et des syndicats, mais ils s'en remettent encore aux partis du Front populaire et à l'appareil de la CGT qui prennent de fait la direction du mouvement et décident à la place des travailleurs. À cette première étape de la lutte, les travailleurs se tournaient vers les militants que le patronat avait combattus inlassablement au cours des années précédentes et vers les organisations qu'ils trouvaient sur leur chemin et représentaient à leurs yeux ces perspectives de lutte. Les effectifs de la CGT et du PC se démultiplièrent durant cette période et dans les mois qui suivirent. De 160 000 en mai 1936 pour le PC, à 380 000 en octobre 1936. De 1 million en mai pour la CGT, à 2,5 millions le 15 juin, avec un pic à 5 millions en 1937. Le 12 juin, un numéro du journal trotskiste La Lutte ouvrière, saisi par la police, titrait « La Révolution française a commencé ». Trotsky y écrivait, je le cite, « L'essence du mouvement actuel réside précisément dans le fait qu'il brise les cadres corporatifs, professionnels ou locaux, en élevant au-dessus d'eux les revendications, les espoirs, la volonté de tout le prolétariat. » Et c'est à ce moment-là qu'il écrivit « Ce ne sont pas des grèves corporatives, ce ne sont même pas des grèves, c'est la grève ». C'est le rassemblement au grand jour des opprimés contre les oppresseurs. C'est le début classique de la Révolution. Il soulignait aussi que les ennemis des travailleurs avaient un état-major, mais qu'il manquait encore une direction au camp des travailleurs. Je le cite à nouveau. Contre l'état-major et le plan des 200 familles, c'était les grandes familles capitalistes, il faut un état-major et un plan de la révolution prolétarienne. La première automobilisation de la masse a marqué et en partie désigné les éléments d'une direction révolutionnaire. Puis plus loin, il n'est pas besoin d'inventer des formes nouvelles. Il y a des précédents historiques. Les ateliers et les usines élisent leurs députés qui se réunissent pour élaborer en commun les plans de lutte et pour la diriger. Il n'y a même pas à inventer de nom pour une telle organisation. Ce sont les soviets de députés ouvriers. Même sans direction ni organe central à opposer à tous ceux qui voulaient que les occupations cessent au plus vite, le mouvement pouvait s'étendre encore. Mais il était mené vers une impasse par ceux qui le dirigeaient de fait. Néanmoins, le patronat et le Front populaire ne parvenaient pas à faire évacuer les usines. Le bruit courait même que des métallos projetaient de manifester à Paris, car aucune manifestation centrale n'avait encore eu lieu pour permettre aux travailleurs d'éprouver leur force et leur nombre. Le défilé parisien du 14 juin, prévu pour célébrer la victoire électorale, fut annulé en catastrophe, le Front populaire craignant une démonstration de force des grévistes. La seule chose que les chefs du Front populaire avaient à leur actif, c'est que les services publics et les banques soient restés en dehors de la grève. C'est alors, le 11 juin au soir, que Thorez réunit les militants du Parti communiste de région parisienne pour les convaincre qu'il n'était pas possible d'aller plus loin et que satisfaction avait été obtenue. Selon sa formule restée célèbre, je le cite, « Il faut savoir terminer une grève quand satisfaction a été obtenue. » Fin de la citation. Le même jour, Le Temps, un journal conservateur, signalait des concentrations de gendarmes mobiles autour de centres ouvriers et le journal trotskiste La Lutte ouvrière fut saisi par les autorités et ses responsables inculpés de complot contre la sécurité de l'État. Dans le même temps, de nombreux patrons lâchaient encore du lest. Certaines grèves durèrent jusqu'en juillet, d'autres démarraient tout juste, mais à partir de ce moment-là, le mouvement commença à refluer. Il régnait néanmoins dans le monde du travail une ambiance de fête et d'espoir extraordinaire. Avec le droit des délégués élus dans les entreprises, la multiplication des conventions collectives, bien des travailleurs se disaient que c'en était fini de l'arbitraire patronal. Avec les congés payés, la réduction du temps de travail, ils avaient gagné le droit au loisir, un privilège jusque-là réservé à la bourgeoisie. Le gouvernement du Front populaire ferait passer de nouvelles lois sociales, il interviendrait dans les conflits sociaux en faveur des travailleurs. C'était sûr, la vie allait changer. 2 ans après 1934, le prolétariat s'était donc levé. Pour la première fois, la création de soviets de délégués ouvriers avait été réellement à l'ordre du jour en France. Mais en l'absence d'une organisation capable de populariser et de mettre en œuvre cet objectif parmi les travailleurs, le grand patronat avait gardé en main toutes les manettes du pouvoir grâce à la digue que le Front populaire avait dressée pour contenir la montée ouvrière. Le patronat put passer à la préparation de la deuxième manche. Il commença par s'assurer que le gouvernement ne tolérerait plus aucune occupation d'usine. Dès le 7 juillet 1936, le ministre de l'Intérieur Salengro fit au Sénat une déclaration si hostile à l'égard des occupations que la CGT se mit en demeure d'expliquer ses propos sur un ton rassurant. Pour faire cesser les occupations, on enverrait d'abord les militants syndicaux, puis les pouvoirs publics, puis les deux. Et alors seulement, si les ouvriers refusaient toujours de céder, disait la CGT, on enverrait des gendarmes après les avoir préalablement désarmés. Bon, c'était la fin de la citation. Dès que des grèves reprirent, le gouvernement laissa les formules de politesse de côté. Le 7 octobre, 250 gendarmes mobiles évacuèrent par la force une chocolaterie du 15e arrondissement de Paris, occupée par les grévistes. Peu après, la grève des métallurgistes de Sauterre-Arlet fut brisée par leur réquisition au nom de la défense nationale. Mais, précisément au moment où la bourgeoisie française, abritée derrière le Front populaire, voyait le danger s'éloigner, la révolution éclatait de l'autre côté des Pyrénées. En juillet 1936, le prolétariat et les paysans pauvres espagnols se soulevèrent contre le coup d'État du général Franco. Depuis 1930, l'Espagne traversait une profonde crise sociale et politique. L'industrie en développement cohabitaient avec des campagnes où l'aristocratie maintenait les paysans dans une misère noire. Ce furent des années de lutte populaire radicale, souvent sous l'influence du syndicat anarchiste CNT, une organisation de masse qui regroupa plus d'un million d'ouvriers et de paysans pauvres. Le discours du Parti socialiste se radicalisait et ses jeunesses regardaient vers les idées révolutionnaires, comme en France. Les réactionnaires se renforcèrent aussi durant les années noires, marquées par l'écrasement de l'insurrection d'Oviedo, dont je parlais tout à l'heure. Pour les élections législatives de février 1936, le PS, le PC et des partis républicains bourgeois formèrent un Frente Popular, aussi peu désireux que son homologue français de voir les classes possédantes prendre leur sort en main, et dont la seule promesse marquante était l'amnistie pour les prisonniers d'Oviedo. La CNT abandonna sa consigne habituelle d'abstention aux élections. C'était un soutien implicite au Front populaire. Mais l'arrivée au pouvoir du Front populaire ne freina pas la combativité des masses. Les ouvriers firent eux-mêmes ouvrir les portes des prisons et réintégrer les travailleurs licenciés. Les paysans reprenaient les occupations de terres. Les grèves tenaient bon malgré les injonctions du Front populaire. Le 17 juillet 1936, le général Franco déclencha un coup d'État à partir du Maroc espagnol, car le Front populaire avait laissé le fossoyeur d'Oviedo à son poste. Plus effrayé devant une riposte des travailleurs que par les putschistes, le gouvernement cacha l'ampleur des événements et tenta de négocier avec les généraux. Interdisant aux travailleurs de prendre toute initiative, le Front populaire les invitait à poser la tête sur le billot. Mais indifférents à ces consignes, les travailleurs déclenchèrent la grève, prirent les armes là où ils le pouvaient, ils attaquèrent les casernes à la voiture bélier, et dans un gigantesque élan, ils firent échouer le coup d'État dans les deux tiers du pays. En déclarant la grève aux exploités, Franco avait déclenché la révolution. Soit renversé par les militaires, soit mis de côté par les travailleurs, le gouvernement de Front populaire était alors discrédité et privé de tout moyen d'action. À la campagne, les paysans pauvres s'emparaient des terres. À la ville, les travailleurs formèrent des centres de pouvoir locaux durant les combats. Les grands patrons et les propriétaires, souvent sympathisants franquistes, se cachaient. Quand la vie économique reprit, elle était sous contrôle ouvrier, notamment en Catalogne, la région la plus industrielle où dominait la CNT. À l'été 1936, dans les deux tiers du pays où les franquistes avaient été mis en échec, les ouvriers et les paysans pauvres espagnols exerçaient le pouvoir de fait. Mais aucun courant politique ayant un minimum d'influence n'eut la volonté de faire élire par les travailleurs des conseils ouvriers qui auraient pu exercer le pouvoir à la place du gouvernement républicain. Ni les partis du Front populaire, bien sûr, ni la CNT. La direction de la CNT, au nom de l'anarchisme et de l'unité antifasciste, laissa en fonction les autorités, comme le gouverneur de Catalogne, se contentant de former des coordinations de partis antifranquistes, loin du contrôle des travailleurs. Elle intégra ainsi, elle aussi, le Front populaire, rebaptisé Front antifasciste. Mais après l'insurrection, alors que les exploités avaient commencé à se saisir du pouvoir, elle contribua ainsi à redonner les rênes à la bourgeoisie et finit par envoyer des ministres anarchistes au gouvernement. L'objectif du Parti socialiste et du PC était de réhabiliter le gouvernement républicain comme direction de la lutte contre Franco. Disant espérer l'appui des bourgeois non franquistes et des autres pays capitalistes, ils mirent tout leur poids pour que cesse la révolution afin de, disaient-ils, gagner la guerre d'abord. Peu à peu, le gouvernement républicain récupéra les responsabilités économiques et militaires, rendit les usines et les terres aux anciens propriétaires. Le gouvernement républicain priva les travailleurs de leur conquête et de leur élan révolutionnaire, c'est-à-dire des armes qui leur avaient permis de faire échec au putsch et qui auraient pu permettre de susciter des révoltes parmi les simples soldats de Franco ou sur leurs arrières. Blum, au nom de la paix en Europe et des larmes de crocodile aux yeux, car c'était un pleureur de compétition, regarda les exploités espagnols mourir. La bourgeoisie française ne voulait pas de l'intervention militaire. Ses sympathies allaient davantage à Franco qu'aux républicains. Et puis qui aurait pu garantir que Franco balayait, les travailleurs espagnols n'auraient pas repris leur marche en avant ? Avec quelles conséquences pour cette flamme de mai-juin 1936 que le Front populaire venait d'avoir tant de mal à éteindre en France ? Les victoires de Franco démoralisèrent un peu plus les travailleurs en France dans la période qui précéda la guerre. Le Parti communiste, lui, mena une agitation en faveur des républicains espagnols. Alors que la déception vis-à-vis du Front populaire grandissait, il put ainsi se démarquer sans s'opposer sur le plan de la politique intérieure, et tout en cachant les agissements de l'Internationale communiste en Espagne, qui faisait remettre leurs biens aux propriétaires, œuvrait à restaurer l'autorité du pouvoir bourgeois et assassinait ses opposants de gauche. Le Front populaire espagnol plaça sa soumission à l'impérialisme et son respect de l'ordre bourgeois si haut au-dessus de sa propre survie qu'il refusa d'accorder l'indépendance à des nationalistes marocains venus proposer un soulèvement dans les bases arrières de Franco. Le Front populaire français fut également un gouvernement colonialiste. En ceci aussi, il apporta sa pierre à la marche vers la Deuxième Guerre mondiale, dont le contrôle des empires coloniaux était un enjeu majeur. Devenu patriote, le PC avait renoncé à son anti-impérialisme. Torres reconnaissait, je le cite, « la mission de la France dans le monde ». Et en Algérie, le PC prétendait que réclamer l'indépendance faisait le jeu du fascisme international. Et ce n'est pas Moutet, le ministre des colonies, qui les aurait contredits, lui qui s'inquiétait dans le journal de la SFIO, et je le cite, de ce qui pourrait sortir d'une action où les notions mal digérées de lutte de classe, certains fanatismes religieux, la nature émotive des Africains, la dissimulation islamique et asiatique se rencontreraient en des réactions complexes et imprévisibles. Fin de la citation. Les grèves de mai-juin en France suscitèrent de l'espoir et des luttes dans plusieurs pays. En Tunisie et au Maroc, en 1936 et en 1937, la répression fit des dizaines de morts. En Algérie, le gouvernement fit jeter en prison Messali Hadj, un militant nationaliste un temps lié au Parti communiste, et interdire son parti, l'étoile nord-africaine. Les promesses faites aux Syriens après la grève générale de janvier-février 1936 furent trahies. Et en Indochine, en révolte depuis le début des années 30, Moutet ordonna au gouverneur général, en septembre 1936, de maintenir l'ordre par tous les moyens. Les gouvernements de Front populaire furent donc tout à la fois des défenseurs de l'ordre bourgeois en métropole et des appuis pleins et entiers à l'ordre colonial. En métropole, dès la fin de la grève générale, la bourgeoisie française lança sa contre-offensive par une augmentation massive des prix et la remise en cause des 40 heures. Dès l'automne 1936, des grèves redémarraient pour limiter l'impact de l'inflation et résister aux tentatives de reprise en main des patrons dans les entreprises. Mais en 6 à 8 mois, l'intégralité des hausses de salaire avait été récupérée par les patrons. En février 1937, Blum annonça la pause. Les travailleurs devaient se serrer la ceinture pour enrayer l'inflation et la fuite des capitaux. La flambée des prix, elle, ne connut de pause qu'à la chute du Front populaire. En mars 1937, la fusillade de Clichy suscita l'indignation. Le Parti social français, héritier des croix de feu qui avait été dissoute en juin 1936, organisait un meeting à Clichy, ville ouvrière du nord-ouest de Paris. Le maire SFIO et le député communiste appelèrent à une contre-manifestation. La police tira, faisant 5 morts et des centaines de blessés. Une erreur, c'est-à-dire quelque chose de plus qu'une faute, reconnut Blum. Mais ce qu'il condamnait ainsi, c'était l'appel à manifester. De plus, la guerre commerciale se transformait de plus en plus en guerre tout court. Le Japon avait envahi la Mandchourie en 1931. L'Italie avait fait de même en Éthiopie fin 1935. L'Allemagne reconstituait son armée. Conscient de cette évolution, Blum, l'ancien chef de cabinet dans le gouvernement de guerre de 1914, était décidé à ne pas laisser la bourgeoisie française se faire distancer dans la course aux armements. Pourtant, la crainte de la guerre était forte dans cette société où les anciens combattants avaient 40, 50 ans. La mort d'un frère, d'un fils, d'un fiancé, d'un père, les horreurs du front. Toutes ces souffrances, les militants communistes des années 1920 les avaient tournées contre les capitalistes fauteurs de guerre. Ils avaient cherché à donner à cette indignation un sens révolutionnaire. Les mouvements réformistes, dont le Front populaire, mirent, eux, en avant des perspectives pacifistes, c'est-à-dire l'espoir de régler les conflits entre capitalistes sans recourir aux armes, grâce à la Société des Nations, l'ONU de l'époque, ou par la dissuasion. Le Front populaire avait fait campagne avec le mot d'ordre « pain, paix et liberté ». Mais dès juin 1936, Blum demanda à l'état-major un rapport sur ses besoins. Tout un programme de nationalisation de l'industrie militaire fut voté en août 1936, et pas pour réquisitionner les profits de guerre, mais pour moderniser une industrie largement basée sur de petites entreprises peu mécanisées et dotées d'un équipement hors d'âge. En septembre, le lendemain du meeting où Blum avait prétendu que son cœur était aux côtés des républicains espagnols, mais qu'une intervention de la France aurait mis en péril la paix en Europe, le lendemain, l'Assemblée vota un plan de dépenses militaires qui dépassait les demandes de l'état-major. Comme le reconnut la revue de droite catholique L'Illustration, je la cite, « C'est le gouvernement de Front populaire qui a pris l'initiative de proposer les plus fortes dépenses militaires qui aient été offertes à la France depuis la guerre. » Fin de citation. Le 21 juin 1937, le gouvernement Blum démissionnait face à l'opposition du Sénat. En avril 1938, des ministres de droite faisaient leur retour en alliance avec le Parti radical. Les députés radicaux, sauvés de la déroute par la coalition avec la SFIO et le PC, se débarrassaient des habits du Front populaire pour revêtir leur tenue habituelle. Il y eut encore des grèves, bien sûr, notamment en novembre 1938, contre les décrets-lois qui remettaient en cause les 40 heures. Mais la déception des travailleurs, leur désorientation, la volonté de la CGT ou du PC d'éviter de perdre à nouveau le contrôle des grèves, les conduisirent à la défaite. La Chambre issue de la victoire électorale du Front populaire termina sa vie sans gloire par le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940. Une très grande majorité des députés du Front populaire votant pour, dont près des trois quarts de ceux de la SFIO. Le PC ayant été interdit après son soutien au pacte germano-soviétique d'août 1939, ceux de ses députés qui lui étaient restés fidèles ne prirent pas part au vote. Alors, pour conclure, dans les années 1930, ni les conférences internationales, ni les combinaisons diplomatiques, ni les discours pacifistes ou sur la sécurité collective n'empêchèrent la guerre commerciale de dégénérer en guerre tout court. Tous ces discours accompagnèrent chaque étape de la marche à la guerre jusqu'au dernier jour. C'était deux faces d'une même pièce. Habituant la population à la possibilité de guerre, tout en permettant de la prendre au dépourvu quand l'heure fatidique sonnerait. Un vent réactionnaire soufflait, servant à rallier une partie de la population derrière les défenseurs de l'ordre social et à diviser les travailleurs en brandissant des boucs émissaires. Mais la guerre sociale finit par provoquer des révoltes profondes, les vagues de grève aux États-Unis, où la classe ouvrière remportait la victoire contre des trusts gigantesques et leurs milices. La déferlante d'occupation d'usines en France, les ouvriers et paysans sans terre d'Espagne qui s'armèrent et se lancèrent dans la Révolution. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, ces révoltes ouvraient la voie vers un autre avenir. L'évolution du capitalisme laissait deux directions possibles. Soit des régimes de plus en plus autoritaires s'acheminant vers la guerre, soit l'entrée en lutte de la classe ouvrière jusqu'à l'expropriation des classes dominantes, jusqu'au renversement par les armes du système capitaliste. Dans le manifeste du Parti communiste, en 1848, Marx et Engels écrivaient qu'un spectre hantait l'Europe, le spectre du communisme. 20 ans avant 1936, le spectre avait pris vie, et c'était le cauchemar de la Révolution russe qui hantait désormais la bourgeoisie mondiale. En mai-juin 1936, le patronat français comprit que chaque jour passé dans l'entreprise occupée faisait toucher du doigt aux travailleurs que l'entreprise pouvait être à eux, qu'ils étaient capables de la faire tourner et donc de la diriger. Pour que cela cesse, les patrons étaient prêts à payer. Ils se reposèrent sur le gouvernement du Front populaire qui assurait aux travailleurs que ces concessions étaient un premier pas et que le reste allait suivre plus tard. En canalisant, puis en jugulant la combativité du monde du travail, les partis du Front populaire permirent d'éviter que la remontée ouvrière ne débouche sur une crise révolutionnaire qui aurait pu bouleverser à nouveau l'Europe, puis le monde, jusqu'à l'Union soviétique. La classe ouvrière avait fait irruption sur le devant de la scène, mais l'expérience des révolutions russes, allemandes, des années rouges italiennes, pourtant proches, n'avait pas été transmise. Et pire, le Parti communiste, qui pour les travailleurs en était l'incarnation, il était passé avec armes et bagages du côté de la bourgeoisie. Et la direction de la CGT aspirait à un rôle de négociateur entre patrons et ouvriers, pas au renversement du capitalisme. Pour surmonter ces obstacles, il aurait fallu qu'existe un parti disposant d'un minimum d'influence dans la classe ouvrière pour lui permettre de se donner une direction révolutionnaire et suffisamment solide pour combattre les partis du Front populaire. Aujourd'hui, l'extrême droite monte partout. La guerre sociale et les tensions internationales s'intensifient. La course aux armements est lancée et les coups de force éclatent de toutes parts. Des illusions dans le système capitaliste persistent. Elles sont même sans doute plus fortes qu'il y a 90 ans, car nous ne sommes plus à 15 ans de la révolution russe et la conscience qu'il existe un camp des travailleurs, des classes sociales a presque disparu. La possibilité même d'une remontée des luttes ouvrières suscite bien du scepticisme, même parmi les travailleurs. Pourtant, la classe ouvrière est toujours au cœur du système de production. La concentration du capital et des entreprises s'est encore accrue depuis les années 1930, et le prolétariat n'a jamais été si nombreux à l'échelle du monde. Les causes économiques qui ont mené à la fois aux guerres mondiales, à la crise de 1929 et aux vagues révolutionnaires des années 20, à la riposte ouvrière des années 1930, elles n'ont pas disparu. Elles continuent de faire leur œuvre. Alors repensons au début des années 30, à 1933. La grève générale en France, la révolution en Espagne, est-ce que c'était quelque chose qui pouvait sembler probable, même pour les millions de travailleurs qui y participèrent plus tard ? Nous militons pour que les travailleurs relèvent la tête, et nous ne pouvons pas savoir à quel moment ça se produira. Mais pour que cette remontée ouvrière se transforme en révolution, il faudra qu'existent des partis révolutionnaires qui aient réussi à transmettre dans le monde du travail cette expérience du passé et à en tirer les conséquences. C'est une lutte à mener, une lutte dont le résultat peut dépendre de chacun d'entre nous.